Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, Tout pour la musique. Une série en 9 épisodes réalisée par Cécile Poss et mise en onde par Pierre Devalet.
J'ai une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
Il a une grande sensibilité dans sa musique.
C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un don dans le domaine artistique.
Premier épisode, les années yéyé.
Et lui avait une tellement belle âme qu'elle peut échapper à personne.
Il avait un charme incroyable.
Le moment dans sa vie où il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique.
J'ai une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant.
Michel est un mélodiste fantastique.
Ses chansons sont intemporelles.
Michel est quelqu'un de très actif.
Michel avait beaucoup d'humour, évidemment, très fin, très très fin.
Il aimait bien dire des bêtises.
Vos noms, prénoms, âge et qualité?
Alors, Michel Berger.
Oui.
Et qualité? Chanteur, auteur, compositeur, ACI.
Prouvez-le.
Tu restes chez toi à boire un verre, devant la télé allumée. Mais tu vois les choses de travers, si tu attends qu'on vienne te chercher. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand le programme est terminé? Tu sors, tu vas prendre l'air, te changer un peu les idées. C'est peut-être moi, peut-être toi, peut-être toi et moi. Changer ça.
Le 28 novembre 1947, à l'hôpital américain de Paris, celui qui chante, qui donnera tout pour la musique, celui qui bouleversera le paysage musical français, celui qui offrira au monde ses plus belles mélodies, vient de naître.
Si tu continues bientôt, tu resteras seul.
Le troisième enfant de Jean et Annette s'appelle Michel-Jean Burger.
C'est peut-être moi, peut-être toi. Peut-être toi et moi qui pouvons changer ça.
La famille Amburger, c'est une grande famille extrêmement bourgeoise.
Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
Évidemment, avec des origines juives, mais devenu protestant, comme ça a été le cas de beaucoup de juifs, évidemment pour se protéger, hein, avant la guerre déjà, et évidemment pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père est le très grand professeur Jean Amburger, plusieurs fois académicien, très grand professeur de médecine, un homme incroyablement brillant, mais incroyablement froid et cassant. Et sa mère, la concertiste suisse, Annette Haas, donc une concertiste, une grande intellectuelle, quelqu'un qui a monté une école de musique très cotée à Paris, donc qui était dans la transmission, etc. Mais là aussi, une femme extrêmement hautaine, extrêmement brillante, mais aussi extrêmement froide. C'est une famille dans laquelle on se dit vous, évidemment, dans laquelle on est en uniforme, y compris à la maison, pas seulement au lycée Carnot, où vont les trois enfants Amburger, mais on est en uniforme à la maison, on se dit vous, et il y a peu d'échanges physiques entre les parents et les enfants. On est vraiment dans ce monde où voilà, on est dans la bienséance, dans les bonnes manières, mais dans tout est codifié. Et on est aussi dans la retenue du protestantisme. On est dans ce qu'on appelle la HP, hein. Ici la HSP, la Haute Société Protestante de Paris.
Moi, je n'ai pas souvenir qu'on disait « vous » à ses parents, en tout cas de mon côté, du côté des Haas, non. Du côté de Tanette, absolument pas.
Patrick Haas, son cousin.
Simplement, c'était peut-être la génération au-dessus. Parce que moi, j'ai connu aussi mon arrière-grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de Michel, qui était née en 1870 et qui, effectivement, elle était très stricte. Et que nous avons connu, Michel et moi, jusqu'à ce qu'on ait 15-18 ans, quoi. Elle était assez stricte, habillée en noir, c'était vraiment une personne, on pourrait dire, carrément d'un autre siècle hein, par rapport au 20e. Mais mamie, donc Suzanne, la grand-mère de Michel et moi, non, a été très détendue. Mais c'est vrai que dans la famille des Haas, il y avait une ambiance un peu feutrée, on pourrait dire, très bourgeoise. Mais justement, Annette a corrigé ça et a donné vraiment cet élan et cette aisance, cette créativité qui a modelé Michel, mais qui a modelé aussi son frère et sa sœur, qui eux aussi étaient très exubérants, très talentueux, parce qu'ils ont fait des tas de choses aussi de leur côté dans leur domaine.
Ce qui était étonnant dans cette famille...
Grégoire Collard, son agent.
Aussi bien avec le père Jean Emburger, qui était grand professeur de médecine et qui était le premier à faire une grève du Rhin. Donc il y avait des sommités de tous bords, politiques et autres qui venaient. Lui-même était écrivain, donc il y avait aussi des écrivains. Et puis avec Madame Emburger, la maman, il y avait évidemment des artistes très célèbres, des cantatrices, des musiciens, des compositeurs. Donc c'était un défilé et tout le monde est passé dans l'appartement des Emburger quand Michel était petit. C'était très très mondain. Ce qui était très curieux pour Michel à la maison, c'est qu'il était tout le temps avec sa sœur, son frère aîné, et puis sa mère, mais la mère toujours en cours avec des tas de gens. Et puis, par contre, le père, il le voyait pratiquement jamais, parce que comme le père était très pris par les endroits où il travaillait, les hôpitaux, les opérations, puisqu'il était chirurgien, professeur et écrivain, donc il était jamais là.
Jean Emburger est quelqu'un de... C'est un professeur.
Mathias Goudot, réalisateur de documentaires.
C'est quelqu'un de sévère qui a eu aussi dans son enfance, lié sûrement à sa judéité, aussi des soucis. C'est aussi quelqu'un qui est élevé à la dure, mais vraiment à la dure. Mais encore une fois, peut-être comme beaucoup plus d'enfants qu'aujourd'hui, en tout cas pour l'époque. Donc c'est quelqu'un de plutôt rigoureux. Après, il a aussi des moments... délicat et agréable, mais c'est quand même la rigueur. Et Annette, en revanche, Michel est très proche d'Annette. Il y a un côté artistique et un côté beaucoup plus doux à la maison. Le père revient à la maison et est très peu présent, déjà quand il est chez lui et quand il revient du travail. Très peu présent pour ses enfants, mais je pense qu'il est, c'est une autorité quand même.
Le professeur Jean Emburger, qui publie énormément d'ouvrages, qui est un des grands pontes de la médecine, qui d'ailleurs est à l'époque où on pense que la médecine va découvrir Dieu et va être la rédemption des êtres humains, hein, et que c'est à travers les découvertes que l'humanité va accéder à une espèce de paradis terrestre. Hein. On croit qu'on va éradiquer la maladie, qu'on va éradiquer le mal. Alors on est évidemment après la Deuxième Guerre mondiale, hein, donc il y a une bonne raison de chercher hein, à éloigner l'Holocauste et la bombe atomique hein, de l'horizon de l'humanité. Et donc ce grand professeur, hein, trois fois académicien, ce qui est très rare, va d'un seul coup tomber malade. D'un seul coup, il est opéré par un de ses collègues, d'un de ses confrères, et pendant l'opération, il se réveille plus ou moins au cours de l'opération et il entend un de ses collègues dire de toute façon, il est perdu. Donc, ça ne sert à rien de continuer, on le laisse là. Et dans sa semi-conscience, il interpelle un de ses collègues et il lui dit, tu vas m'opérer, je vais t'expliquer comment, et tu vas m'opérer quand même. Déjà, ça, c'est assez stupéfiant.
Alors, j'ai rencontré le professeur, moi, qui était avec le père Anecker, qui travaillait.
Mathias Goudot.
Il se trouve qu'un soir, chez lui... Le père fait une sorte d'embolie et puis il y a transport aux urgences à Necker puisque là-bas, il va retrouver des collègues et être sécurisé. C'est son lieu de travail et donc son milieu. Effectivement, il semblerait qu'il y ait une sorte, il s'auto-opérerait. C'est un peu la légende qu'il reste sans anesthésie. Il se trouve que c'est plutôt à l'époque où les anesthésies n'étaient pas du tout comme aujourd'hui et que globalement, il a fallu aller très vite. Et le professeur dit, ils ont peut-être effectivement mis un produit quand même. Mais en tout cas, à l'époque, on est en 53, ce n'est pas les opérations d'aujourd'hui. Donc, il y a une énorme différence et il faut se replacer dans le contexte plutôt, à mon sens, d'après tous les témoignages que j'ai pu avoir là-dessus. Ce n'est pas le survivor qui s'opère avec un couteau dans la jungle. On n'est pas là puisqu'il est à l'hôpital, etc. Mais il y a effectivement eu Il s'est, je crois, lui-même tranché un peu parce qu'il connaissait un peu ces choses-là, mais il va vite perdre connaissance et après se faire opérer. Voilà les éléments sur cette opération qui, effectivement, est peut-être le point de départ de tous les questionnements de la famille et donc de Michel Berger sur la suite et sur le réveil du père. Et au réveil, Michel ne va pas dans la chambre. Hein. Il est trop petit, donc il reste en bas dans la voiture. Franca est accompagnée avec Annette, donc la femme de Jean Burger, la mère de Michel Berger, vient dans la chambre avec ses deux enfants, mais sans Michel, les deux autres. Et là, elle lui présente les deux enfants. Tu te souviens des enfants ? Il répond qu'il n'a pas d'enfant. Une sorte d'amnésie totale, mais en même temps, pas complètement totale parce qu'il se souvient de quelques éléments. Et de là part toute la question que personne, je crois, n'a élucidée, y compris même les professeurs qui le connaissaient, ses collègues, tout. Est-ce que c'est une amnésie partielle ? Est-ce que c'est une amnésie totale ? Ou est-ce que c'est une amnésie volontaire ? Voilà, ça après, toutes les questions, je ne sais pas si la réponse est intéressante à donner, ce sont les faits derrière qui vont, en tout cas, marquer la famille qui va se reconstruire différemment, et Michel Berger en particulier.
Quand il se réveille et qu'il sort du bloc opératoire, là on entre dans le mystère absolu.
Yves Bigot.
C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas, ou feint-il de ne pas reconnaître, ni sa femme, ni ses enfants. Alors j'ai interrogé de nombreux spécialistes du cerveau. Bon, avec le cerveau, on sait que rien n'est à écarter et que tout est possible. En même temps, il n'existe, à ma connaissance, aucun cas répertorié d'amnésie de ce type, car il n'a rien oublié du reste. Il va redevenir très rapidement le grand professeur Hamburger, continuer ses découvertes, continuer à publier un nombre incroyable d'ouvrages de médecine et de philosophie, et donc ne rien perdre de ses qualités. Et donc cette amnésie sélective ne concernerait qu'uniquement sa femme et ses trois enfants. Un grand doute peut exister. C'est une énigme absolue, et surtout c'est une brutalité absolument incroyable pour sa femme et pour ses trois enfants, je dirais presque plus encore, parce qu'éventuellement s'il avait quelque chose à reprocher à sa femme, on ne voit pas pourquoi il le reprocherait à ses enfants. Mais c'est une rupture absolument incroyable. Et Annette Haas-Hamburger n'a jamais, jamais de sa vie, jusqu'à la mort du professeur Hamburger, eu la moindre explication.
C'est-à-dire qu'il va partir en cure d'abord, ne pas revenir chez lui, et puis globalement ne plus revenir.
Mathias Goudot.
Il se trouve qu'il partira sûrement avec une autre femme, en tout cas sa secrétaire. Est-ce que c'est pour travailler ? Est-ce que c'est pour plus ? On ne peut pas le préciser. Il se trouve que plus tard, en tout cas, il reconstruira sa vie et que Annette, la mère de Michel Berger, restera seule, en tout cas, tout au long de sa vie, à élever ses enfants. Il se trouve que la famille et Michel va subir l'absence du père, ce départ surtout inexpliqué. C'est presque ça plus l'important dans l'histoire que le départ lui-même, c'est qu'il soit totalement inexpliqué et incompris. Michel va vivre avec ça et la famille va se reconstruire. Annette va être très présente, Michel va être très proche d'Annette. Ils vont recréer quelque chose de plutôt joyeux. On ne vit pas dans la tristesse, en tout cas, puisqu'ils ont tous un peu la musique et un talent artistique. Donc, ils vont vivre comme ça. Et de temps en temps, dans la vie de Michel Berger, le père réapparaîtra. Là, les versions sont différentes selon les témoins que l'on peut rencontrer. Il se trouve que certains vont dire qu'ils le voyaient même jeune, régulièrement, de temps en temps, en tout cas, au restaurant du Bon Marché, parce qu'il le tient au courant. Le père va écrire pour, semble-t-il, demander des nouvelles de ses enfants. Il y a une absence de toute façon. Il le reverra clairement. Il y a des photos qui l'attestent. En 1983, ça c'est une certitude. D'autres diront qu'il viendra le voir quand il aura du succès. C'est un père qui va joncher la vie de Michel Berger, qui va revenir de temps en temps. Michel est marqué par l'absence, ça c'est une certitude, mais aussi par le départ inexpliqué du père.
Quand l'enfant triste est dans le noir, sans rien comprendre et sans rien voir, et sans vouloir, mais qui l'a fait pleurer, en aurais-tu idée? Quand il avait l'air gai, l'enfant triste, l'enfant triste, l'enfant triste, tu sais qui c'est? Triste, pense à toi. Il perd son esprit et voix, il n'entend pas les gens autour de lui qui viennent et le supplient de prendre un air plus gai. L'enfant triste, l'enfant triste, l'enfant triste, tu sais qui c'est. Mais c'est l'espoir qui lui fait joindre les mains. Et pour te voir, il vivra jusqu'à demain. Jusqu'à demain.
Michel Berger, tout pour la musique.
Alors Jean Burger a été l'inventeur des greffes du rein en France.
Patrick Haas, son cousin.
Et c'était quelqu'un d'extrêmement brillant sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, je dois dire qu'il a été assez destructeur pour la famille, puisqu'il est parti du jour au lendemain, laissant donc trois enfants à une femme qui n'avait pas beaucoup de revenus à cette époque-là et qui avait de lourdes charges. Il a eu une attitude tout à fait froide et d'ignorance vis-à-vis de ses enfants, de sa femme. C'était un divorce, mais vis-à-vis de ses enfants qu'il n'a pas voulu voir et qui ont été très peinés, évidemment, par cette attitude-là. Michel était très jeune, donc il l'a évidemment connu, mais ça n'a pas été, je crois, le traumatisme que certains ont décrit, mais qui ont justement retrouvé un équilibre grâce à la douceur et à l'amour que leur donnait leur mère, et puis aussi mon père qui a joué ce rôle de second papa, qui était en fait un rôle de conseil, justement, dans l'orientation des carrières professionnelles de ses trois enfants. Michel était très entouré, sa mère Annette donc était très présente, et c'était une artiste, de même que sa mère elle, donc la grand-mère de Michel et ma grand-mère, qui était pianiste, et donc l'ambiance était très artistique, très ouverte sur la mode. Vous savez, c'était les années 60 aussi, qui était une époque de grande libération des mœurs, et c'est vrai que tout ne passait pas facilement à cette époque-là, mais justement, Annette était une personne très ouverte, elle favorisait beaucoup la créativité. C'est elle qui lui a appris le piano, de même que sa mère, donc la grand-mère de Michel. Et c'est vraiment grâce à ces deux personnes que Michel a développé son talent artistique. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je considérais qu'aller à la campagne, à la maison de campagne de Tanette, qui s'appelait La Chaumine, près de Rambouillet, c'était un peu sortir aussi de mon propre carcan familial, qui était peut-être un peu plus strict que celui de Michel, justement.
La mère de Michel était professeure, elle avait créé un conservatoire de musique.
Grégoire Collard, son agent.
Où elle recevait du monde entier des très grands musiciens de piano, bien sûr, mais aussi des accompagnateurs, violoncellistes, autres, dans son conservatoire, qui venaient de l'Europe entière, sinon du monde entier. Et elle avait été virtuose du piano classique. Ce qui fait que Michel Berger, dans son enfance, il a toujours entendu du piano chez lui, puisque dans le grand salon, il y avait deux grands pianos. Et avec son frère aîné et sa sœur aînée, Michel Berger jouait sous les pianos à cache-cache et puis voyait les jambes un peu des virtuoses. Il y avait aussi des chanteuses ou des chanteurs lyriques qui venaient, bien entendu, comme Maddy Mesplet et tout ça. Donc voilà, il était environné de tout ça. Et le piano était un peu comme un second langage vis-à-vis de ses enfants, de la maman au Burger. Donc elle composait des petits morceaux comme ça, et puis elle les réveillait en musique. Quand ils allaient à la campagne, elle les réveillait en musique, aussi bien Michel, quand il avait 7, 8 ans, 10 ans, et qu'il avait des copains, tout le monde alors était réveillé par Madame Burger au piano, qui chantonnait pas des comptines, mais des petites chansons d'allégresse et pour que tout le monde soit de bonne humeur. C'était sa façon à elle de prendre ses enfants, donc Michel évidemment, dans ses bras, en tout cas dans les notes de son piano.
Annetta, c'était un personnage. Elle était le pilier de la famille.
Émilie Marx, sa nièce.
Elle jouait beaucoup de musique. Elle adorait Chopin, elle adorait Debussy, elle adorait Poulenc, Beethoven. Elle nous a fait connaître à tous cette culture qu'on a et qu'on transmet de musique. Elle nous racontait parfois des histoires pendant qu'elle jouait ses morceaux pour les illustrer. Et donc, elle nous jouait ça après le déjeuner. Alors souvent, on choisissait et elle s'exécutait. Elle n'avait pas besoin de partition. Elle connaissait tout par cœur et elle jouait merveilleusement bien. Quand elle illustrait, elle disait... C'était l'invitation à la valse de Weber. Et je ne me rappelle plus du tout de l'air. Et à un moment, donc il y a un monsieur qui vient l'inviter à danser la valse. Et puis la jeune fille, elle dit « Je veux bien, je veux bien ». Voilà, je me rappelle juste de ça, là.
Je suis venu à la musique parce que j'ai une mère qui est pianiste. Et j'ai entendu beaucoup de concerts et de choses comme ça quand j'étais petit. Et puis j'ai eu un choc vraiment au moment de l'arrivée du rock'n'roll, de Ray Charles, de tous les chanteurs américains qui, quand j'avais 15 ans, étaient très célèbres. Et j'ai réappris un petit peu le piano en autodidacte, sans me servir du solfège, vraiment un petit peu tout seul, avec une autre technique. Et puis je me suis mis à écrire des choses moi-même, et puis voilà.
J'ai surtout pas envie de faire une carrière de pianiste. Ça, au moins, j'étais sûr de ça. Parce que je trouve que c'est vraiment... D'abord, c'est un métier affreusement dur. Et en plus, j'ai jamais eu envie de jouer les morceaux des autres. Donc, je crois que j'aurais été un très, très mauvais pianiste.
La maman Amburger, Annette Amburger...
Grégoire Collard, son agent.
...aurait bien voulu que tous ses enfants, avant de marcher avec leurs pieds, marchent avec leurs doigts sur le clavier. Et donc, elle les mettait au piano, mais elle ne voulait pas être en même temps la maman et un professeur intransigeant, parce que pour faire du piano, il faut faire du piano tous les jours. Et puis, donc, à un moment, elle a dit à Michel, prends des cours, je vais inviter un professeur à venir. Et évidemment, le professeur, c'était une femme d'ailleurs, était très méchante parce qu'elle a tapé avec une règle. C'est pas une légende, ça, qu'on tape sur les doigts des enfants qui apprennent le piano, avec, donc sur leurs doigts avec une règle. On pense que c'est un cliché, mais non. Et Michel a détesté qu'on lui tape sur les doigts. Et puis en fait, il n'avait pas envie d'apprendre, il avait envie de découvrir, Michel. Ça a toujours été un rebelle. Dans la musique, même plus tard, quand il s'est mis à composer lui-même, il ne voulait pas entendre, être inspiré ou s'inspirer ou plagier les autres compositeurs. Donc, même étant petit, oui, bien sûr, il s'est mis tout seul au piano. Il a vite compris comment ça fonctionnait. Il y avait ça avec sa mère, il y avait ça très peu avec son frère, très peu avec sa sœur. Mais lui, voilà. Donc, il a fait un peu de musique.
On apprenait à faire de la musique comme on apprenait à parler.
Émilie Marx, sa nièce.
La musique, c'était vraiment pour tout le monde. Et puis, c'est resté comme ça toujours depuis. C'est on mange du chocolat à la fin du déjeuner, on joue du piano après le chocolat. Voilà, ça, c'est un peu la mentalité de la famille qui a toujours été comme ça et qui sera toujours comme ça. Alors, après le chocolat, c'est pas lui qui joue. C'est sa mère. C'est Annetta Samburger qui joue de la musique classique. Parce que si lui ne joue pas de musique classique, sa mère considérera que ce n'est pas de la musique. Elle était très sévère là-dessus. Donc, il était dans les spectateurs après le déjeuner. Il ne jouait pas de ses nouvelles chansons, on les connaissait à peu près à la dernière minute.
Il a baigné dans cette atmosphère musicale classique, hein, puisque...
Patrick Haas, son cousin.
Justement, une anecdote, c'est que Tanette, tous les week-ends, quand on allait à la campagne, faisait un concert de piano, seule au piano. Mais elle jouait donc des œuvres, et c'était justement nous qui lui demandions telle ou telle pièce, tel ou tel morceau, et on était très impliqués. Moi, ça me barbait un peu, quelquefois, parce que j'étais plus jeune, et puis peut-être moins à l'écoute de ce type de musique. Pour Michel, ça a façonné vraiment sa jeunesse, hein, dès la plus tendre enfance. Et puis Michel jouait très... Alors à la campagne, il jouait tout le temps, hein, du piano. Et puis après, on allait faire des tours de bicyclette dans le jardin. Voilà. Et puis on allait voler des fraises chez la fermière, la voisine. Là, c'était assez amusant. Mais il jouait très, très souvent du piano. Et sa mère le surveillait, enfin, je veux dire, lui donnait des conseils. Lui. Alors, il jouait aussi des morceaux classiques avec sa mère et sa grand-mère. Et puis après, il passait à ce qu'il avait un peu plus envie, qu'il démangeait, visiblement. Mais il jouait aussi à Paris, évidemment. Il ne faut pas croire qu'il passait que tout son temps à la campagne. Mais on y allait régulièrement tous les week-ends. Et moi, c'est surtout là que je l'ai vu, enfin, sur deux jours complets. Mais j'allais aussi très souvent le voir passer des moments à Paris et très souvent il jouait du piano. D'ailleurs, dans l'appartement qu'il occupait avec son frère et sa sœur et sa maman à Paris, il y avait deux pianos, deux très beaux pianos, et souvent il jouait à quatre mains. Dans la musique classique, il aimait beaucoup Mozart, enfin les grands classiques, l'opéra aussi, ce qui va donner naissance à son propre opéra. On a beaucoup parlé, lui et moi, et avec ses amis aussi, des courants musicaux qui émergeaient à cette époque-là. Lui, il était fan de Ray Charles, par exemple, ça a été son premier amour musical. Je me souviens, on était à la campagne, il était très jeune, il devait avoir, je ne sais pas, 15-16 ans, et il avait reçu l'autorisation de sa maman d'aller exceptionnellement à un concert de Ray Charles qui se produisait à l'Olympia à Paris, et donc il était revenu le lendemain, parce que c'était un concert évidemment le soir, donc il était resté à Paris pour dormir, et il était revenu le lendemain, et il avait les yeux brillants racontant ce concert qu'il avait complètement transporté de joie, et il avait joué après sur le piano à la campagne des morceaux qui avaient été joués par Ray Charles. Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Every morning when the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know now, oh, I know. Hallelujah, I just love her so. Michel, il a été, je pense, transformé dans son approche rythmique de la musique par l'écoute de What I Say.
Yves Bigot.
Lui-même, évidemment, jouait du piano. Il s'est dit, ah ben, on peut jouer du rock et cette musique-là voilà, au piano. Et puis, il était transfiguré, oui, par l'effet totalement cathartique, hein, qu'a ce morceau, qui est d'ailleurs une improvisation. Hein, Ray Charles, il avait fait ça un jour en rappel, comme ça, c'est pas un morceau écrit, avec sa section de cuivre et puis avec les Raillettes, hein, ses choristes. Et c'est exactement la définition de la soul music, hein, What I Say, parce que c'est sur le mode des réponses du gospel, donc de la musique sacrée. Simplement, la réponse, c'est pas entre une âme cherchant sa rédemption et Dieu, c'est pendant un acte sexuel entre un homme et une femme, car à l'époque, on ne pensait pas qu'il pouvait en être autrement, mais en tous les cas, c'est, voilà, c'est la sexualisation d'une musique profondément religieuse, mais en gardant cette ferveur, justement, venant de la religion. Il a été transcendé pour ça, mais l'influence de Ray Charles en France, hein, elle a été extraordinaire sur une génération entière, que ça soit de musiciens de jazz ou que ça soit justement des gens qui ont fait le yéyé ou voir le rock en France, parce que ça a été une figure incroyable, parce que les Français étaient fascinés par sa musique, d'abord d'une qualité spectaculaire, par ses prestations scéniques, par son orchestre qui était absolument excellent, et puis un peu par un fantasme du fait que c'était un homme noir et aveugle. En plus, il y avait quelque chose dans la transcendance et dans la rédemption qu'il représentait, qui a fasciné les Français, de manière en même temps très généreuse et sans doute un peu perverse aussi dans le rapport à la rédemption. Bon, il est noir, il est aveugle, mais il arrive quand même à faire quelque chose. Il y a un petit côté paternaliste, hein, et post-colonial malgré tout dans cette affection, mais qu'on ne peut pas reprocher parce que c'est un artiste tellement fascinant. Je veux dire, les premiers concerts de Ray Charles à Juan-les-Pins ou à Paris, des concerts qui sont restés vraiment historiques. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love you, Dad.
ring. She knows how to shake that thing. All right, now, now, now. Hey, hey. Hey, hey. It's all right.
Il aimait aussi beaucoup Baden Powell. Et puis il aimait, alors plus tard, il aimait beaucoup les Beatles.
Patrick Haas, son cousin.
La révolution musicale de l'époque, et puis avec beaucoup de créativité, de talent des Beatles. Il décortiquait les morceaux, il les écoutait en permanence, enfin vraiment en buvant les paroles et la musique. Je me souviens par exemple, un jour, il a ramené un disque des Beach Boys et il a écouté un morceau. Je crois que c'était dans Wouldn't It Be Nice, il me disait, mais comment ça se fait? Ils ont réussi à faire une espèce de roulement de tambour, mais qui est tout en douceur. Moi, je ne comprends pas comment ils ont fait ça, mais quelle émotion. Et, enfin, il était très, très exubérant sur des artistes qu'il découvrait. Ça se passait beaucoup à la maison de campagne de La Chaumine, près de Rambouillet, ses débuts musicaux, où avec ses amis, il formait un petit orchestre. Et d'ailleurs, au début, c'était un petit orchestre de jazz, avec d'autres voisins qui habitaient à la campagne. Il y avait un ami qui jouait de la clarinette. Ça, c'est vraiment les tout débuts. Et puis après, c'était Annette qui jouait avec eux. Enfin, c'était vraiment des moments très chaleureux où on sentait qu'il se passait quelque chose, qu'il allait y avoir des talents qui pouvaient émerger.
On était au lycée ensemble, on était au temple protestant ensemble, à l'école du dimanche ensemble, les protestants tous les deux.
Jean-Philippe Saint-Jour, son ami d'enfance.
Et on était aux éclaireurs unionistes ensemble. Donc on faisait chacun de la musique dans notre coin, on va dire. Lui du piano dans son environnement familial qui est très musical. Et moi, je faisais de la guitare classique et aussi de la guitare variété, on va dire, ça se disait pas à l'époque. Et on s'est dit, à l'occasion justement de ces auditions qui ont été lancées par les grandes firmes de disques, que ça valait le coup d'essayer quelque chose. Et on s'est mis ensemble et il composait et on interprétait ce qu'il composait. On s'amusait à faire du Ray Charles pour s'entraîner, pour s'amuser. J'ai continué le jeudi à l'époque, c'était jeudi le jour de congé les enfants. Pas le mercredi, je crois.
Et avec des copains de lycée.
Grégoire Collard, son agent.
Jean Brousse et Saint-Jour, deux copains, ils ont commencé à faire de la musique comme ça dans leur coin. Michel jouant du piano, bien entendu, les autres d'autres instruments. Ils étaient en classe ensemble, donc ils allaient aussi le week-end dans la maison de campagne des parents de Michel, où tout le monde faisait de la musique, la mère aussi, Annette Amburger. Enfin voilà, c'était musique, mais pas une obsession non plus. Comme un jeu, comme faire du tennis et tout ça, c'est un peu de compétition, beaucoup d'amusement, imiter un peu, attraper le style américain aussi. Et donc voilà, c'était assez passionnant et c'est comme ça qu'il a passé son enfance et sa proche adolescence.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.
Alors les années 60, les années yéyé, c'est vraiment une révolution déjà sur la planète, hein, au niveau de la musique, mais c'est aussi une révolution en France. Il se trouve qu'il y a une émergence de jeunes chanteurs. C'est la jeunesse qui prend le pouvoir au niveau musical. Il se trouve qu'ils ne vont pas non plus prendre le pouvoir au niveau créatif, parce que la plupart des chansons sont des adaptations de morceaux américains, de morceaux anglais qui sont adaptés en France. À l'époque, c'est vraiment l'époque des adaptations. Il se trouve qu'il y a quelques créateurs par-ci, par-là. Mais les yéyés, c'est vraiment ça, c'est la révolution où avant les jeunes n'écoutaient pas de musique. C'était la musique à papa, on va dire, de l'après-guerre. Et puis là, enfin, on peut en plus se déhancher, ce qui est vraiment diabolique. Hein. C'est un rendez-vous avec le diable quand on fait du twist. Donc ça bouscule vraiment.
Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées.
Michel Berger, tout pour la musique.
En 1962, Michel a 15 ans.
Grégoire Collard.
Et à l'époque, c'est l'époque des yéyés. des jeunes, pareil, de 15, 16, 17 ans, qui chantent « yeah, 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 yeah » comme ça. Maintenant, ça sera peut-être plus du rap, mais voilà, c'était ça. Et comme ça marchait bien, et qu'il y avait la nouvelle génération commerciale dans le monde d'alors qui arrivait et qui s'intéressait aux jeunes et tout ça, donc les maisons de disques engageait des dizaines et des dizaines de groupes ou de jeunes chanteurs ou chanteuses parce qu'on ne sait jamais, on pouvait être, voilà. Et donc il y avait des auditions qui se passaient à Boulogne-Billancourt, près de Paris, chez Pathé Marconi. Et voilà, devenez vedettes ou les vedettes de demain ou les stars de demain. Les auditions s'appelaient avec des, quand même des petites annonces dans les quotidiens, donc dans le Parisien.
Toi aussi, tu peux devenir célèbre. Tu aimes chanter ? N'hésite plus, tente ta chance. C'est peut-être toi qui seras l'idole de demain. Viens auditionner au studio. Viens. Cinémonde et Pathé Marconi t'attendent tous les jeudis de 14h30 à 18h30, 62 rue de Sèvres, à Boulogne.
Il se passe qu'on se dit, c'est intéressant d'essayer, c'est amusant. Et on avait deux autres copains de classe, là pour le coup de classe uniquement. L'un était batteur,
Jean-Philippe Saint-Jour,
et l'autre fait les paroles de
chansons. Son ami d'enfance. Enfin,
s'est mis à faire des paroles de chansons. Il était un peu poète, on va dire. Et on décide à quatre de créer une espèce de d'équipe avec un troisième musicien et un parolier. Et on se présente à cette audition chez Pathé Marconi, dans un studio à Boulogne. Et on passe après un groupe inconnu et avant un groupe inconnu ou connu, je ne sais plus s'ils ont été retenus. Et ensuite, on est retenu. Alors pour le coup, ça c'est sûr. Et on enregistre les quatre premiers titres. Et là, on est à côté des Chats Sauvages qui enregistrent à côté, qui sont déjà connus. Voilà, avec Dick Rivers.
Michel Berger, il est en culotte courte, hein. C'est un élève du lycée Carnot et avec des copains, dont Jean Brousse,
Yves Bigot,
qui était son parolier à l'époque. Ils font un groupe et alors comme ça se passait à l'époque, ils vont à une audition, ils partent, mais c'est des gamins, ils sont mineurs, hein. Ils ont 15 ans, hein, 14-15 ans quand ils vont passer cette audition, donc chez Pathé Marconi, en dehors de Paris, hein, alors c'est pas très loin, passer cette audition, mais ils sont en culotte courte après les cours, hein, donc le soir à 17h. Et alors, ils ont écrit 3-4 chansons qu'ils ont répétées avec un batteur qu'ils ont trouvé, là, comme ça, au passage. Et un très réputé directeur artistique qui s'occupe déjà des Chats Sauvages, le groupe de Dick Rivers, les trouve pas mal. Mais en fait, le groupe ne lui plaît pas. Mais il dit à Michel Berger, il dit, toi, je pense que tu as quelque chose. Donc, il s'intéresse à Michel Berger. Et donc, il lui propose de faire des disques à l'époque qu'on tirait à 50 exemplaires simplement pour envoyer aux radios, aux médias, etc. Et si jamais une radio le jouait, après on faisait un vrai disque. Et donc ils font enregistrer à Michel une chanson, parole de Jean Brousse, musique de Michel Berger. Et donc Europe 1 se met à jouer ce disque et ça devient donc un vrai disque. Et le premier succès de Michel Berger, bah, c'est un tube yéyé qui s'appelle Amour et Soda.
Un clin d'œil, un soda, un twist, un cinéma. Et ça y est, l'on y croit. Pourtant, écoute-moi. De ce jeu, méfie-toi. Tu le regretteras. Oh oui, l'amour. Yeah, yeah, yeah. Oh l'amour. Ouais, ouais, ouais. Oh l'amour. Yeah, yeah, yeah. Oh l'amour. Ouais, ouais, ouais. Oh oui, l'amour. Je n'ai que 16 ans. Et toi, presque autant. On croit qu'on aime, on se ment. Les rêves sont devant, et bien vite le temps, les ravites aux enfants. Oui pour l'amour, yeah yeah yeah, oh l'amour, wah wah wah, oh l'amour, yeah yeah yeah, oh l'amour, wah wah wah, oh oui l'amour. Quitte on doit se quitter, oui c'est la destinée, de cœur trop vite usé, on voulait le bonheur. Ton cœur dans d'inutiles pleurs. Oui pour l'amour, yeah yeah yeah, oh l'amour, wa wa wa, oh l'amour, yeah yeah yeah, oh l'amour, wa wa wa, oh l'amour. Alors patiente encore, à quoi bon les remords quand on peut déjouer le sort. L'amour vient quand il faut, ne le force pas trop, il n'en sera que plus beau. Oh, l'amour, yeah, 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 oh, l'amour, wow.
Ça paraît très désuet aujourd'hui. C'est un petit peu rythmique. Michel y joue déjà du piano. C'est gentillet. Il va connaître deux, trois autres petits succès, comme ça, de 45 tours. Et ça est l'affection de Salut les copains, qui ont envoyé Jean-Marie Perrier rencontrer Michel en vacances en Suisse pour son premier reportage et ses premières photos dans Salut les copains, qui sont en Suisse. Et on voit Michel, encore une fois, il a 15 ans, c'est un gamin, il a ses grandes oreilles décollées, les cheveux ras, et il a vraiment l'air d'un gosse, quoi. Elles sont très touchantes, hein, ces photos de Jean-Marie, parce qu'on a vraiment l'impression, et en même temps, il est super bien habillé, même en short, avec ses bretelles, etc. On voit que c'est un fils de bonne famille, quoi. Mais en même temps, chanteur yéyé. Et grâce à ses petits succès, puis le soutien de Salut les copains de Daniel Filipacchi, ben, il figure, et de Jean-Marie Perrier, il figure sur la photo historique de Salut les copains, sur laquelle il y a toutes les vedettes, hein, de l'époque. Et sur cette photo se trouve également Françoise Hardy, pour laquelle il écrira plus tard Message personnel, France Gall, qui deviendra sa femme et dont il composera toute la deuxième, les chansons de toute sa deuxième carrière, et aussi Johnny Hallyday, pour qui voilà, il écrira l'album Rock'n'Roll Attitude. Et c'est rigolo, hein, voilà, la manière dont le destin s'est écrit pour lui de cette manière-là.
Entre 1959 et 1969, dès 17h, tous les jeunes se branchent sur Europe 1. Ils écoutent l'émission lancée par Franck Thénault et Daniel Filipacchi, Salut les copains.
Je me souviens que lorsque son premier disque est sorti,
Patrick Haas, son cousin,
c'était à l'époque de Salut les copains sur Europe 1, et il y avait donc le chouchou de la semaine, par exemple, qui était une chanson qui passait régulièrement pendant la semaine, au début et à la fin de l'émission, qui était une émission qui était devenue culte. Tous les adolescents avaient leur transistor collé à l'oreille pour écouter cette émission, qui était la seule de ce type à l'époque. Et donc, on pouvait plébisciter des chansons ou des auteurs. Alors, à l'époque, ça ne se faisait pas par téléphone, on envoyait des cartes postales. Donc, il m'avait demandé d'envoyer plein de cartes postales pour favoriser la chanson qui commençait à grimper dans le hit parade. Alors, je m'étais collé avec des écritures différentes, en plus, pour qu'on ne voit pas que c'était la même personne. Donc, je me souviens d'avoir passé des heures et des heures à écrire des cartes postales pour demander que la chanson de Michel soit chouchou de la semaine.
On est chouchou à Salut les copains.
Jean-Philippe Saint-Jour, son ami d'enfance.
Chouchou, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est une émission journalière, quotidienne, Salut les copains. Et il y avait une espèce de hit parade. Et c'était un hit parade dont le premier était le chouchou, si je me souviens bien. Et on est chouchou une, deux, trois semaines. Je ne sais plus combien de semaines on a tenu, mais il a été chouchou de Salut les copains. Donc, avec L'amour, tu n'y crois pas. C'était le premier titre qu'on a enregistré.
L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. L'amour, tu n'y crois pas. Peut-être, mais pauvre garçon, tu le fais tourner la tête en faisant voler ton jupon. Tu es bête et tu t'entêtes quand ils ne perdent pas la raison. Pourtant, l'amour, tu n'y crois pas. Peut-être as-tu raison. L'amour, tu n'y crois pas.
Michel Berger, tout pour la musique.
Peut-être, mais pauvre garçon.
Michel en parlait beaucoup à sa maman. Moi, j'étais pas tellement associé. J'étais le petit dernier. Là, j'avais pas tellement mon mot à dire sur ce plan-là.
Patrick Haas, son cousin.
Mais je sais que lorsqu'il y a eu les premières auditions, puis après le premier 45 tours qui est sorti, il se posait beaucoup de questions sur est-ce qu'il allait persévérer dans cette voie-là ou continuer ses études, parce qu'il faisait des études de philo très poussées. Après, il était à Nanterre. Il se posait beaucoup de questions. Il était en fait assez raisonnable sur ce plan-là. C'était pas du tout quelqu'un de tête en l'air qui disait « Ah, ben, j'ai fait un 10, super, je vais être la star de demain ». Pas du tout.
Alors, inutile de vous dire que toutes ces chansons de cette première époque et de cette première période...
Yves Bigot.
Michel, il était obligé de vivre avec, mais comment vous dire que... voilà, il ne les a jamais interprétées sur scène, hein, par la suite. Il ne s'est pas complètement renié, mais quand il a connu le grand succès personnel avec la groupie du pianiste en 1980, il y a évidemment un album qui a réédité toutes ses chansons de l'époque. Et je me souviens, il était furieux parce qu'il disait « Les photos, ce sont des témoignages de cette époque. » Il disait « Mais les chansons, non, elles sont juste nulles. » Et il disait « En plus, c'est horrible parce que chaque fois que je vais en promo dans une radio, on me dit « On vous a préparé une surprise. » Et il disait « La surprise, ça n'en est plus une parce que partout où je vais, c'est toujours la même. » C'est « On me ressortait toujours une des chansons. » »« On a retrouvé un de vos disques. » Et malheureusement, oui. Alors bon, il ne les reniait pas complètement, contrairement à d'autres chanteurs qui ont essayé de faire disparaître leurs enregistrements de cette époque. Non, lui, il savait qu'il fallait vivre avec, mais il en avait moins honte qu'il n'avait honte des chansons de France Gall de la même époque, hormis celle écrite par Gainsbourg. Mais Sacré Charlemagne, par exemple, c'était la chanson qu'il détestait le plus au monde.
Le changement de nom de Michel, c'est au moment où, effectivement, il commence...
Mathias Goudot, réalisateur de documentaires.
Se produire, il faut bien un nom d'artiste. Alors, la question du changement de nom. Pour avoir posé la question clairement à la sœur de Michel Berger, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a effectivement qu'ils étaient moqués dans la cour de récréation, parce qu'en Burger, on n'est pas loin de hamburger, et qu'on les appelait hamburger pommes frites, ce qui n'est jamais très agréable, et qu'on se dit qu'on va être connu dans l'espoir par des milliers de personnes. Il n'y a pas de zénith à l'époque, mais ne serait-ce qu'à l'Olympia, c'est un peu difficile à porter. Et puis, il y a peut-être aussi, le père est parti, donc c'est difficile de continuer à porter le nom de quelqu'un qui... nous a abandonnés, quelles que soient ses raisons, valables ou pas, qui n'a pas donné d'explication. Et ça, Franca me dit aussi que peut-être qu'il n'a plus envie, en tout cas, de partager ce nom-là, même s'il ne le délaisse pas complètement, puisque entre Hamburger et Berger, il n'y a pas énormément de lettres qui changent.
Je ne voulais pas avoir le même nom que mon père, parce que je trouve que quand on fait un métier public, je crois que, étant donné que lui est assez connu en France dans sa spécialité, je crois que c'est bien d'assumer son propre nom et de commencer à zéro et de pas commencer comme le fils de quelqu'un. Ça, je crois que c'est indispensable.
Je suis très content d'avoir un nom à moi et je crois quand même que je suis reparti tout à fait à zéro et que ça m'a en tout cas pas aidé. Et j'en suis assez fier. Mais enfin, je veux dire, j'en suis fier pas plus que n'importe qui s'attache à faire son nom. Je
crois. Donc un nom nouveau, celui que vous êtes inventé, Michel Berger, Berger donc, et puis peut-être la musique pour lutter contre le désarroi. C'était la seule manière pour vous d'en sortir.
Oui, mais vous savez, je crois que l'art en général, c'est vraiment une lutte contre le désarroi, c'est certainement ça. Mais c'est aussi une manière de s'épanouir extraordinaire. Et c'est une chance fantastique de pouvoir avoir un don dans le domaine artistique. Parce qu'on ne se pose plus de questions, si vous voulez, sur la manière de vivre. Je veux dire qu'on a toujours, vous savez, on fait un cinéma à soi où on a des manières de s'extérioriser quand on n'est pas artiste, entre guillemets, qu'on est obligé de trouver, alors que là, il est tout trouvé. Finalement, la ligne de sa vie, je crois, est trouvée quand on a un domaine artistique à soi.
Ce n'est pas un scandale si je pars en chantant. Après tout, c'est normal quand on a 16 ans. Wow, 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 voilà à quoi je rêve.
C'était Tout pour la musique, premier feuilleton d'une série d'été consacrée à Michel Berger, réalisée par les radios francophones publiques et que vous retrouverez tous les samedis du mois de juillet de 10h à 11h sur France Inter.